Bonjour, bonjour, ici Radio B.
Nous sommes avec vous en direct du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Au micro, 6 détenus, Lotfi, Étienne, Abdel, Jérémy, JB et Yann.
Nous allons nous intéresser à la couleur. Oui, la couleur, ça vous parle, je suis certain que c'est le cas. Cette couleur qu'on choisit ou qui nous choisit pour telle ou telle raison. Une émotion, un sentiment, un parfum, une histoire, une évidence. Un regard et l'ensemble de ces couleurs nous bousculent dans notre intimité. Pourquoi ? Comment ? Leur origine, leur évolution, leur traduction sont des éléments de réponse qui nous poussent à trancher pour telle ou telle couleur. Si on prend l'aspect scientifique des couleurs, on s'aperçoit qu'elles seront sans limite. Si on se focalise sur la nature et l'origine des couleurs, on peut affirmer qu'elles existent bien avant l'apparition de l'homme sur Terre. Les couleurs sont présentes partout dans notre vie et nous accompagnent au quotidien. Ces couleurs ont des diversités multiples et pourtant, ça ne les empêche pas de se marier, de se rapprocher, de s'unir, de s'associer, de s'aimer, de se manifester, de s'imposer, de s'ouvrir, de s'exprimer, de se mélanger ou de se valoriser. Mais ce ne sont pas les seules vocations. Elles vont aussi s'opposer, se disperser, se haïr, se refouler, se repousser, se défier, se méfier et même se liquéfier et bien d'autres surprises. Comment se positionner pour dire par exemple qui du hara ou du corbeau est le plus beau ? Une évidence, sûrement, mais peut-être pas autant que vous le penseriez. Laissez-nous envisager que c'est un sujet sans fin que vous aurez plaisir à partager avec nous. Alors, faites votre cuisine et n'oubliez pas qu'elle sera de toute façon accompagnée de toutes les couleurs.
Plus de précisions autour de ces notions de couleurs avec Jean-Philippe Godard. Il est médiateur scientifique à l'ALTEC, une association de vulgarisation scientifique.
Comment sont apparues les couleurs sur Terre ?
Scientifiquement, va falloir à un moment donné qu'on redéfinisse ce qu'est la couleur. La couleur, on peut avoir différentes approches, que ce soit d'un point de vue artistique, d'un point de vue scientifique, et on n'aura pas forcément les mêmes définitions de la couleur. On va dire que pour définir concrètement une couleur, il va nous falloir trois choses. Il va nous falloir une lumière, il va nous falloir un objet à observer et un observateur. Si nous, on n'a pas ces trois éléments-là, on ne pourra pas définir une couleur. Et donc, si on veut dire à partir de comment sont apparues les couleurs sur Terre, on pourrait dire que les couleurs, potentiellement, elles étaient là, mais il a fallu qu'il y ait quelque chose pour pouvoir les observer, donc un observateur. On peut corréler ça à l'apparition de la vie et des premiers systèmes visuels. Tout va dépendre dans l'évolution biologique des couleurs qu'on va pouvoir distinguer. C'est-à-dire que les êtres vivants sur la planète ne voient pas forcément tous les mêmes couleurs. Nous, on a une vision, ce qu'on va appeler une vision en trois couleurs. Notre système visuel permet de distinguer trois grandes couleurs, qui sont le rouge, le vert et le bleu. Mais d'autres êtres vivants voient quatre couleurs. Beaucoup d'oiseaux ont quatre couleurs. Donc il y aurait une couleur qui nous échappe que les oiseaux voient. Certains insectes aussi voient en quatre couleurs. Beaucoup d'autres mammifères ne voient que deux couleurs, donc on a une vision du monde qui ne correspond pas du tout à la nôtre. Et la championne, c'est une petite crevette, la crevette menthe, qui elle est capable de distinguer 12 couleurs différentes. Donc on pourrait se dire que dans le monde du vivant, avec les mêmes sources lumineuses, en observant les mêmes objets, on ne va pas observer du tout les mêmes couleurs.
Et comment ça marche, la perception de la couleur ? Par exemple, pourquoi voit-on le ciel bleu ?
Alors, on va avoir différents phénomènes qui vont entrer en ligne de compte. Ça amène à parler de deux choses. Un, la source lumineuse, la lumière. Et deux, le fonctionnement de l'œil. Alors, sur le fonctionnement de l'œil, c'est un arabe, Ibn al-Haytham, me semble-t-il, qui va faire, on est aux alentours de l'an 1000, qui va faire les premières descriptions du fonctionnement de l'œil, qui va véritablement comprendre comment fonctionne la perception de la lumière par l'œil. Avant lui, on imaginait que c'était l'œil qui envoyait des rayons de lumière, que ces rayons de lumière rebondissaient sur les objets et qui revenaient. Et lui, il va décrire le fonctionnement de l'œil et il va se dire, non, la lumière, elle vient de l'extérieur et c'est l'œil qui va analyser cette lumière. Ça, c'est la première grande avancée sur le domaine du fonctionnement de l'œil. La deuxième grande avancée, ça va être un Anglais, Isaac Newton, qui va décrire, lui, la lumière. Et à ce moment-là, on va comprendre que la lumière n'est pas pure, mais est un mélange de différentes couleurs. Et c'est l'association de ces deux phénomènes-là qui va nous permettre après d'expliquer pourquoi le ciel est bleu. Pourquoi le ciel est bleu ? Parce que quand la lumière du soleil, qui est blanche, traverse le ciel, l'atmosphère en absorbe une partie et la diffuse, et c'est pour ça qu'on va voir apparaître le ciel bleu, c'est parce que c'est la couleur bleue qui va être le mieux diffusée dans l'atmosphère terrestre.
Et quelle est l'influence du soleil et de la lune sur les couleurs ?
On est bien d'accord pour se dire que lorsque j'observe un objet le jour et un objet la nuit, je ne le perçois pas tout à fait de la même couleur. Alors ça, c'est dû aux différents capteurs que nous avons au fond de l'œil. On a deux types de récepteurs qu'on appelle les cônes et les bâtonnets. C'est la forme de ces cellules qui reçoivent la lumière et qui la transforment en signaux chimiques qui sera décodé par le cerveau. Le jour, l'acuité visuelle est fait qu'on va utiliser surtout les cônes quand on veut une vision précise et qui sont les seuls à pouvoir déterminer les couleurs. On a très peu de cônes en proportion par rapport au nombre de bâtonnets. Les bâtonnets, eux, vont être sensibles plutôt à la luminosité et au mouvement. Ce qui fait que la nuit, quand on a moins de lumière, c'est surtout les bâtonnets qui vont nous envoyer une image. Et cette image-là ne permet pas de distinguer correctement les couleurs. C'est pour ça qu'on dit « la nuit, tous les chats sont gris ». D'accord, l'expression, elle vient de là, parce qu'en fait, on a du mal à distinguer ces couleurs, mais on arrive à garder bien la perception des mouvements.
On parlait tout à l'heure de Newton et que c'était l'un des premiers à avoir bossé sur les couleurs avec les prismes. Alors j'aurais une question, à quoi sert un prisme ? Et une deuxième, dans la foulée, c'est comment ça se fait que les couleurs de l'arc-en-ciel ressortent quand une lumière passe à travers un prisme ?
On avait déjà observé cette expérience-là, qu'en faisant traverser ce rayon de lumière blanc dans un prisme, on obtenait de la lumière colorée. Jusqu'à Newton, on pensait qu'il se passait quelque chose à l'intérieur du prisme qui transformait la lumière. Newton, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre ses lumières colorées et il va les rassembler. Il fait l'expérience en remettant des lentilles convergentes pour faire se rejoindre ces rayons d'arc-en-ciel et il obtient à nouveau de la lumière blanche. Et donc c'est comme ça qu'il a pu comprendre que la lumière blanche n'était pas une lumière pure mais une lumière composée de différentes couleurs. Et après, donc, un prisme, ça va nous servir à quoi ? Alors, à l'heure actuelle, le prisme, outre de disperser la lumière blanche et d'obtenir la couleur de l'arc-en-ciel, on l'utilise aussi pour renvoyer la lumière. Par exemple, dans une paire de jumelles, ça va nous servir de réflecteur. Il y a un effet miroir aussi dans les prismes. Et donc, physiquement, qu'est-ce qui se passe ? On va dire que c'est là qu'on va comprendre que la lumière n'est pas seulement composé de grains de lumière, de photons, tel qu'on l'a cru pendant une époque, mais qu'elle se comporte aussi comme une onde. Une onde, par définition, ça n'a pas de couleur. Néanmoins, lorsqu'on dévie cette lumière blanche, on va diffracter un petit peu ce faisceau de lumière, on obtient différentes longueurs d'onde, et ces longueurs d'onde vont exciter, plus ou moins, nos récepteurs qu'on a au fond de l'œil.
On est allé à la rencontre d'autres personnes pour connaître leur point de vue.
Quelle est votre couleur préférée ?
La couleur préférée, c'est le bleu.
Alors le bleu, ça me fait penser à la mer.
À l'Olympique de Marseille.
Aux vacances, au soleil.
Orange, au soleil, à l'été.
Le vert, la nature, la vie.
Le rouge.
Le rouge,
la Tunisie.
L'énergie.
Blanc.
C'est le blanc.
Parce qu'elle est neutre, elle est bien.
Les couleurs du printemps. C'est le vert, c'est la nature qui renaît. C'est le ciel qui devient un peu plus bleu. C'est le gris qui s'en va. Voilà, c'est ça qui me plaît.
Quelle couleur aurait la liberté et pourquoi ?
La liberté, le bleu, parce qu'il y en a partout, le ciel, la mer.
La mer, le ciel.
Bleu, parce que le ciel, il est bleu et en prison, on voit que du gris et c'est maussade.
Soit le blanc, soit le rouge. Pourquoi le blanc ? Parce que c'est une couleur que j'aime.
Ça symbolise la pureté.
Parce que ça symbolise la paix.
Couleur sain, pureté et liberté.
La couleur de tous les possibles.
Vous êtes toujours sur Radio B, la suite de l'interview de Jean-Philippe Godard. Il est médiateur scientifique à Altec.
Il y a quelques temps, il y avait une photo qui avait fait débat sur Internet parce que les personnes ne voyaient pas c'était une robe, et les personnes ne voyaient pas la robe de la même couleur. Donc ma question est, pourquoi ne voit-on pas tous les choses de la même couleur ?
Déjà, ici, entre nous, personnes ici présentes, on a tous les définitions communes des couleurs. Du vert, ce sera du vert, du rouge, ce sera du rouge. Par contre, même si on ne souffre pas de maladies liées à, aux couleurs. On en reparlera peut-être après. Ce sera, c'est pas parce que on va définir que ben la porte est verte ou que mon jean est bleu qu'on va avoir tous la même analyse de ce bleu-là. C'est-à-dire que culturellement, on s'est fait notre propre code couleur. Donc, il faut se dire que d'un individu à l'autre, on a des variations de la perception des couleurs qui sont non négligeables. Et puis après, culturellement, c'est pareil. On va avoir des perceptions de la couleur qui est complètement différente. Les Esquimaux décrivent le blanc beaucoup mieux que nous. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans un environnement blanc et avec... Et eux, ils ont mis énormément de nuances et donc de mots sur ces différentes nuances que nous, on n'a pas besoin. Donc, culturellement, on va avoir comme ça énormément de différences. Alors, ce qui est vrai pour les Esquimaux, c'est vrai aussi pour les Indiens d'Amazonie, où le vert, ce n'est pas les mêmes verts. Donc, ils vont avoir beaucoup plus de mots aussi pour traduire ça. Donc, on peut avoir ces explications-là. Et donc, après, sur la perception des couleurs, on peut dire qu'on n'analyse jamais non plus une couleur toute seule. On l'analyse aussi par rapport à un environnement donné. Donc, si je prends une couleur et que je la superpose sur une autre couleur, je vais avoir, on va dire, une sensation différente. On va toujours analyser une couleur par rapport à son contexte. Donc, si je prends du jaune et que je l'entoure de beaucoup de bleu, ce jaune-là, il va tirer un peu sur le vert. Si je l'entoure de beaucoup de rouge, il va tirer un peu sur l'orange. Donc on va toujours analyser un petit peu les couleurs par rapport à son environnement. Et puis une fois qu'on a analysé la couleur, ça demande au cerveau énormément de travail d'analyser les couleurs. Donc il va se dire qu'une fois que j'ai compris que le maillot là-bas, il était bleu, ok, je ne vais pas réfléchir sans arrêt, si je le regarde à nouveau, il est bleu. Voilà, je raccourcis, etc. Ce qui fait que si j'ai des changements de lumière, des choses comme ça, bien que apparemment ça va changer de couleur, mon cerveau continuera à me dire il est bleu.
C'est quoi être daltonien alors ?
Le daltonisme, c'est lié à un physicien chimiste qui s'appelait John Dalton, qui souffrait lui-même de cette pathologie. Il s'est aperçu qu'au final, il ne voyait pas tout à fait les mêmes couleurs que les autres. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de daltoniens qui ignorent qu'ils sont daltoniens. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué avant, on s'est construit notre propre code couleur. Et donc, les daltoniens confondent souvent le rouge et le vert. Mais c'est pas forcément le cas. Ça peut être le bleu et le jaune qui sont pas bien analysés. Alors ça, c'est souvent, la plupart du temps, c'est un problème génétique qui fait que... on a moins de cônes qui réagissent. Alors, il faut peut-être que j'explique là. En fait, dans notre œil, quand je vous ai expliqué qu'on avait des cônes et des bâtonnets, on a trois types de cônes. On a trois types de récepteurs de lumière au niveau des cônes. Il y en a qui sont sensibles dans le rouge, il y en a qui sont sensibles dans le vert, et il y en a qui sont sensibles dans le bleu. Ce qui, en optique, va nous donner les trois couleurs primaires. Et ben, certaines personnes... ont plus ou moins de cônes rouges, plus ou moins de cônes verts, plus ou moins de cônes bleus, et puis il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas bien. Et donc ça, la plupart du temps, ça peut être c'est génétique. Et dans ce cas-là, on va avoir une confusion des couleurs. Ça peut être d'origine un accident cérébral qui fait que c'est le cerveau qui déconne mal les couleurs. Donc voilà, il peut y avoir différentes causes avec un même phénomène observé. Néanmoins, ce n'est pas une pathologie qui est très grave, hein, ce n'est pas un handicap lourd. On vit très bien en étant daltonien, on confond juste un petit peu les couleurs et ça va mettre les personnes en difficulté véritablement quand on va vouloir affiner les couleurs. Quand on demande à un daltonien de prendre le crayon rouge, il ne se trompe pas, il va prendre effectivement le crayon rouge, même s'il ne le voit pas rouge. Parce que lui, cette tonalité de vert là, il l'a associé à la couleur rouge, donc il ne se trompe pas. Et donc c'est pour ça que c'est dur aussi de se déterminer daltonien. Ben non, j'ai bien colorié en rouge, j'ai bien répondu à la consigne, j'ai bien saisi mon crayon.
Et pour rester sur le handicap, les personnes non-voyantes perçoivent-elles les couleurs justement ?
Alors les personnes non-voyantes perçoivent-elles les couleurs ? Suis-je capable de voir les couleurs si je suis... Alors, normalement, non, on ne voit pas les couleurs. Si on est non-voyant, on ne va pas pouvoir percevoir les couleurs. Néanmoins, ça n'empêche pas de pouvoir mettre du sens derrière les couleurs. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour se dire qu'une banane, c'est jaune. Et on va associer une banane à la couleur jaune. Donc si on demande après à un aveugle, j'ai un pull couleur banane, il va l'associer à la couleur jaune. Et donc, ça n'empêche pas d'avoir du sens et de se dire, s'il y a une banane, forcément, elle sera de couleur jaune, la plupart du temps, etc. Donc, ils ne se tromperont pas par rapport aux couleurs et donc, ils peuvent développer une sensibilité particulière aux couleurs.
Color, le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe. Indolore, les murs. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau.
Merci pour ce montage musical. Abdel, pourquoi y a-t-il des gens de différentes couleurs de peau ?
Il faut chercher la réponse dans la génétique.
Quel rapport entre la couleur de peau et la génétique ?
Ce sont les mélanocytes, des cellules qui produisent de la mélanine, c'est-à-dire les pigments qui colorent notre peau. Les mélanocytes sont situés dans notre peau. Plus ils sont regroupés, plus le teint de la personne sera clair, plus ils seront éparpillés et plus le teint sera foncé.
Ok, donc notre peau est composée de pigments de couleur en fait.
C'est ça, il existe deux types de mélanine, ou de couleur si tu préfères. Le mélanine, d'une couleur entre le brun et le marron foncé, et la phéomélanine, qui varie entre le jaunâtre et le rougeâtre. C'est lorsque la lumière va réfléchir sur ces pigments que notre œil va percevoir ces différentes teintes.
On ne peut donc pas parler de peau noire ou blanche ?
Non, et des chercheurs de l'université de Pennsylvanie renforcent cette idée. Ils ont étudié 4 zones de génome associées aux différences de la couleur de peau. Voilà leur conclusion. La couleur de peau est peut-être liée à une adaptation de l'environnement. Une peau sombre prévient des UV et donc du cancer de la peau. Une peau plus claire est plus efficace pour fabriquer plus de vitamine D quand il y a moins d'UV. Ce travail est paru dans la revue Science. Il montre que la génétique contredit la notion de race. Comme dit la professeure Sarah Tichkoff, il n'y a pas de race africaine.
Alors pourquoi certains se focalisent sur la couleur de peau ?
Historiquement, culturellement et même au niveau artistique, ce sont plus les couleurs de peau dites blanches qui ont été et sont toujours prédominantes, surtout dans les institutions culturelles. La preuve, 87% des œuvres abritées par les 18 plus grands musées des États-Unis ont été réalisées par des hommes, dont 85% sont des hommes blancs. Étude réalisée en 2019 par Public Library of Science.
Et dans nos musées français ?
Même constat. Et se pose aussi la question de la place des artistes femmes. Seules 25 femmes référencées sur 3600 peintres au Louvre, comme l'explique une conservatrice du musée à l'AFP.
Merci Abdel pour ces données, c'est hallucinant. Mais alors, comment représenter la diversité aujourd'hui? JB, tu t'es intéressé à la culture hip-hop.
Oui, alors quand à une époque la représentation artistique était réservée à une élite, leur thème était forcément lié à leur culture, occidentale, chrétienne et blanche. Les mouvements artistiques modernes sont plus représentatifs du métissage et notamment les œuvres inspirées ou dites issues de la culture populaire. J'aimerais rebondir sur ce point en vous citant un artiste de pop art haïtien, Jean-Michel Basquiat. Découvert par Andy Warhol, Basquiat réussit, avec un style très brut, coloré dans ses toiles, à devenir la représentation afro-américaine de l'art moderne des années 70-80. En 2021, un tableau de Basquiat s'est vendu chez Christie's 93 millions de dollars, dépassant de loin les toiles de maître que l'on connaît tous, telles que Renoir, Picasso ou encore Monet. À noter que le tableau vendu, In This Case, représente le thème cher à Basquiat, l'anatomie et la représentation des personnes afro-américaines. On peut imaginer que si les artistes afro-latinos sont bien mieux cotés aujourd'hui, c'est aussi parce que les acheteurs sont de plus en plus issus de cette culture. C'est à travers le street art, la musique, le sport que ces personnes sont devenues des acheteurs d'art à prendre en compte. Ils veulent se sentir représentés et des artistes comme Basquiat sont devenus des symboles pour elles.
Watch me reverse out of dicks. He got a bad bitch, bad bitch. We live in lavish, lavish. I get expensive fabrics. I got expensive habits. He wanna go with me. He likes to roll away. He wanna be with me. He wanna give me that vitamin D. Give me the ball, take a top shift. Call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night with Young, say I'll make you famous. Hell, you ever seen a stage going ape shit?
Dans ce clip qui a fait sensation, Beyoncé et Jay-Z s'invitent au Louvre, l'occupent même, et se représentent comme des œuvres vivantes avec l'idée de s'imposer parmi les autres représentations. Et tout ça dans le plus grand musée du monde.
Ce clip a suscité pas mal de réactions. On vous invite à aller le regarder. Les couleurs de peau des danseurs font écho aux œuvres du musée. On ne peut que ressentir plein d'émotions en découvrant cette vidéo. D'ailleurs, dans les clips, comme dans la vie, on voit que les couleurs sont importantes et ont du sens. Jean-Philippe Godard, médiateur scientifique à Altec, nous en parle.
Ça va énormément jouer, les couleurs, sur nos émotions. Ça va nous influencer énormément. Et ça, les publicitaires, vous en faites pas, ils ont compris ça, par exemple, depuis longtemps. Si les couleurs du packaging, etc., sont pas faites pour rien, c'est bien fait pour nous attirer, pousser à la consommation. Donc, il y a des couleurs qui nous parlent plus que d'autres. Et donc le rouge, c'est quelque chose qui va véritablement attirer notre attention. Et s'il y a beaucoup d'emballages qui sont rouges, c'est pour nous inciter à nous arrêter et dire je le prends pas, etc. Et c'est pour ça que les panneaux d'interdiction, etc., sont aussi de cette couleur rouge. Pourquoi ? Parce que le rouge, ça peut symboliser à la fois le danger. Alors, le feu, c'est rouge. Si vous touchez quelque chose du feu, ça brûle. Hein ? Donc, le cerveau, il comprend, il se brûle une fois et puis. Mais c'est aussi, ça peut être aussi quelque chose de bon. Ce fruit, il est rouge, il est sucré, et je sais qu'il est bon pour mon corps. Donc, à une même couleur, on peut avoir des sensations différentes, mais on va avoir comme ça. Et il y a plein d'études qui ont été faites comme ça sur l'influence des couleurs. Et ces influences de couleurs-là sont vraies dans une société donnée à un moment donné. C'est-à-dire que, par exemple, là, pendant longtemps, on a associé le bleu aux garçons, le rose aux filles. Si on se projette un peu dans le passé, le rose était associé aux garçons. Culturellement, d'une société à une autre, chez les sociétés occidentales, le blanc, c'est la couleur du mariage. Dans d'autres cultures, c'est la couleur du deuil. Et on sait que pour apaiser certaines passions ou quoi, on va, en mettant les gens dans des pièces plus ou moins colorées, ça va permettre de les calmer ou d'exciter, de les rendre plus productifs. Sachant que le blanc, par exemple, c'est pas forcément la couleur dans laquelle on se sent le mieux. Une pièce blanche, on se sent pas forcément à l'aise. Si on colore la pièce en rouge ou en orange, on va se sentir mieux, on va être beaucoup plus productif. Par contre, on va être un peu plus excité que si on est dans une pièce verte ou bleue, qui va être plus ouvert à la rêverie, à l'imagination. Ça a une vraie, vraie influence. Et on n'a pas encore compris tous les mécanismes et jusqu'où ça pouvait nous influencer. Mais on vit dans un monde coloré, et ces couleurs nous envoient des signaux, et il faut dire que ce n'est pas pour rien que ça nous envoie des signaux, et que notre corps a dû s'adapter à ces différents signaux.
Tant que le soleil brillera, les couleurs seront là.
En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute.
Et je vous dis à bientôt sur Radio B.
Blue's the color of the sky in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning, when we rise in the morning, when we rise. That's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her, that's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking. Mm-hmm. Of the time when I've been loved.